Chapitre 6e. Le mois de septembre était venu, remplissant les habitations de chasseurs et la plaine de coups de fusil. Mais Madame de Fonlus n'aimait pas le bruit, ni les réceptions nombreuses qui la fatiguaient. Elle s'arrangeait pour avoir chaque année un roulement d'amis ou de parentes pauvres qui se relayaient autour de son fauteuil pendant ses 4 mois de villégiature, afin de rompre le tête-à-tête avec son fils, dépourvu d'intimité et souvent tendu, comme on a pu le voir. Bertrand, de son côté, recherchait peu la société masculine et, pour tout dire, il avait peu d'amis, car il ne voulait pas les choisir dans un monde inférieur au sien et, pour frayer avec ses pères, l'état de dépendance matérielle où le tenait sa mère était une gêne pénible. Cette année-là, particulièrement, il sembla redoubler de misanthropie, mais l'ardeur de ses goûts cinégétiques, modérée jusqu'alors, s'éveilla tout à coup. Presque chaque jour, il sortait, son fusil sur l'épaule, seul avec son chien, comme un bourgeois de chef-lieu de canton qui va battre les luzernes. Quelquefois, il rapportait du gibier, mais pas toujours. Ce n'était pas que la plume ou le poil fussent devenus plus rares sur ces terres. Seulement, Claudine restait rarement un jour, si ce n'est le vendredi, sans plumer quelques perdreaux, et quand la chiffonnière passait devant la maison avec sa charrette et son âne, il était rare qu'elle n'eût point à discuter le cours des pots de lièvre avec Madame Veuve Plantagenet. Il va de soi que Bertrand ne donnait pas son gibier pour rien. Autant de pièces, autant de visites aux châtelaines des Brettes, comme elle s'appelait elle-même en riant. Toujours pressé à l'entendre, il faisait des façons pour s'asseoir, mais finalement il s'asseyait et même parfois il restait assis des heures entières. D'ailleurs, il avait presque toujours dans son sac un journal pour Madame de Frézolles et une revue sérieuse pour sa fille. Il était rare, au surplus, qu'il eût besoin d'aller les rejoindre dans la forêt. « Depuis que nous avons un si beau jardin, grâce à vos indemnités, disait l'infirme, je n'ai plus envie d'en sortir. » Suzanne assistait à ces conversations, mais sans y prendre beaucoup de part. Elle écoutait en silence, caressant Fanor avec de gros soupirs, ou feuilletant d'une main distraite les pages ouvertes sur ses genoux. Que lui importaient toutes les questions et toutes les réponses qu'elle entendait? La seule question qu'elle brûlait de faire, qui ne sortait pas de son esprit, était impossible. C'était celle-ci. « Quand nous ferez-vous part de votre mariage avec cette Américaine si jolie ?» Car les gens du château considéraient leur jeune maître comme fiancé à la belle Flora. Et par Étiennette, Guignard savait les ondits de l'office. Et grâce à Guignard, Claudine en était informée. Et par Claudine, Suzanne avait appris la grande nouvelle dont elle aurait dû se réjouir, 5 millions. Mais la pauvrette ne s'en était pas réjouie. Pourquoi? Dieu seul aurait pu le dire, et aussi Fanor, à l'oreille de qui Suzanne parlait souvent. Quant à Madame de Frézolles, Claudine avait estimé, dans sa sagesse, qu'il valait mieux la laisser dans l'ignorance. « Voyez-vous, mademoiselle, avait dit cette judicieuse personne, quand monsieur le marquis sera marié, nous ne le verrons plus. Et ce sera un gros chagrin pour madame qui est en amitié avec ce jeune homme, à croire qu'elle l'a toujours connu. Donc ne la contristons pas. Les mauvaises nouvelles viennent toujours assez vite. » En attendant, Fonlus se trouvait plus heureux qu'il ne l'avait été de sa vie, et de fait, c'est un grand bonheur pour un être au cœur noble de voir chaque jour de femmes comme était celle-là, et de pouvoir se dire « Elles me doivent toute la part ensoleillée de leur vie. » À ce plaisir délicat venait s'ajouter l'attrait piquant des difficultés à vaincre de toutes parts. Il fallait que Bertrand combinât sans cesse des ruses de contrebandier, avec cette aggravation que sa contrebande n'était pas moins scabreuse à la sortie qu'à l'entrée. L'exportation du moindre panier de chasselas des espaliers du château était une aventure à courir, non que la marquise fût avare de son raisin. Les pauvres malades des environs en savaient quelque chose, mais elle était jalouse de son contrôle en général. D'ailleurs, dans l'espèce, Bertrand se doutait bien que sa mère n'eût point trouvé de son goût l'entraînement charitable qui le portait à franchir si souvent, à cheval ou à pied, les 2 lieues qui séparaient Fonlus de la chaumière des Brettes. Ici apparaissaient des obstacles d'un autre genre. Madame de Frézolles ne faisait point exception à la nature humaine, qui s'habitue aisément au bien-être et n'est pas longue à trouver naturel les bons procédés d'autrui, même quand aucun des motifs ordinaires ne les justifie. Toutefois, elle avait, à certains moments, des révoltes contre ce qu'elle appelait ses voyages de fourmis venant à la fourmilière chargée et s'en allant sans fardeau. « Un beau jour, disait-elle, moitié plaisante, moitié fâchée, on s'apercevra qu'il ne reste plus que les quatre murs du château de Fonlus. On cherchera le mobilier, il sera chez nous. Cher monsieur, les choses ne peuvent plus aller de la sorte. » Il faut convenir que Bertrand avait à son actif des tours de force dans le genre. Un des plus difficiles avait été l'installation d'un piano sous le toit des Brettes, où le superflu ne se montrait guère. Le marquis n'avait pas songé à autre chose durant une semaine. Finalement, le Pleyel, à peu près neuf, loué à Melun, avait été introduit avec plus de mensonges qu'il ne s'en débite à la bourse pour lancer une émission. « Cette vieille épinette, avait dit le jeune homme, pourrie dans mon grenier, sans être jamais accordée, car nous en avons deux autres. Si mademoiselle Suzanne veut se donner la peine d'en jouer de temps en temps, ce sera une bonne œuvre. Elle empêchera les vers de manger les cordes. » Suzanne, on le devine, était un peu rouillée comme pianiste, mais ses doigts s'éveillèrent bientôt. En même temps, elle retrouva la voix qu'elle avait, sinon remarquable, du moins d'une grande fraîcheur, avec des notes singulièrement touchantes. Madame de Frézolles l'en félicita le premier soir, tout émue de plaisir, les paupières mouillées. Depuis 4 ans, la pauvre infirme ne s'était vue à pareille fête. « Où donc as-tu pris le sentiment qui te manquait jadis ? » demanda-t-elle. Suzanne répondit en rougissant jusqu'aux tempes. « C'est que je deviens une vieille fille. D'aujourd'hui, en un mois, j'aurai 20 ans. » Puis elle se leva et va mettre un baiser sur chacun des yeux de sa mère, comme pour les fermer à la lumière naissante. La chère femme ne comprit pas que la véritable réponse était dans cette caresse, qui voulait dire, en bon français, « Hélas non, il n'est pas toujours parti les mains vides. Votre plus cher trésor, le cœur de votre fille, sans le savoir lui-même, il l'a pris. » À partir de ce jour, le plaisir de la musique vint alterner avec celui de la conversation pendant les visites de Bertrand, ce qui ne les rendit ni plus courtes ni plus rares. Les partitions du château suivirent le même chemin que les livres, et sans qu'il y parût, le verbe « aimer » se conjugua presque chaque après-midi aux Brettes sur tous les tons de la gamme. Un jour, le jeune ténor vint au concert avec un rouleau qui contenait le fameux madrigal dédié à la marquise, et tout d'abord, il en raconta l'histoire, du moins ce qu'il savait. « Père Antoni, » répéta madame de Frézolles, « attendez donc, je me souviens de lui. C'était un professeur de grand mérite que j'ai dû voir chez quelques-unes de mes amies. Oui, c'est bien ce nom-là, Père Antoni. Un grand jeune homme dont les yeux lançaient des éclairs quand il jouait du violon, dans les concerts ou dans le monde. Sans doute, madame votre mère fut une de ses élèves préférées. Ça, voyons ce que vaut son œuvre. » Suzanne se mit à déchiffrer le morceau, mais sa mère l'interrompit bientôt. « C'est écrit pour une voix d'homme. Allons, monsieur. D'ailleurs, c'est de la musique de famille, pour vous. » Le marquis s'exécuta, plutôt mal que bien. « Les notes sont à peine lisibles, » dit-il en façon d'excuse. Mais la vérité est qu'il regardait un peu trop Suzanne, et pas assez les notes. L'enfant baissait la tête sous la voix de Bertrand comme sous une averse. On aurait cru qu'elle allait se blottir à l'abri du clavier. Pour l'achever de peindre, Fonlus ajouta. Or, ce qu'il venait de chanter, c'était « Si je vous disais pourtant que je vous aime ». Voilà des paroles faites à souhait pour vous être chantées, mademoiselle. Le regard de Suzanne se leva sur lui tout palpitant, baigné de tendresse. Éperdu d'espoir, un regard de Diane désarmée sortant des yeux de Vénus. Bertrand comprit soudain que le cœur de cette belle créature était à lui, mais il comprit en même temps pourquoi, depuis sa première rencontre avec Suzanne, il n'avait plus lui-même qu'un désir, la rendre heureuse et la voir sourire. Cependant, il fallait expliquer les paroles qui venaient de produire un effet si magique. « Mais oui, » reprit-il en tâchant de rester maître de lui, N'êtes-vous pas une brune aux yeux bleus, comme celle du poète ?» Mademoiselle de Frézolles courba de nouveau la tête. L'allusion qu'elle avait cru saisir, qui la rendait toute tremblante, n'était pas celle qui concernait la couleur de ses yeux. Presque aussitôt, le jeune homme prit congé et s'enfonça dans la forêt à grandes enjambées. Mais il ralentit le pas dès qu'il se sentit bien seul dans l'ombre déserte. Cette fois encore, il fut en retard pour le dîner. Mais aucune américaine, riche ou pauvre, n'était là pour l'attendre. Sa mère seule, flanquée d'une vieille cousine, son invitée du moment, se trouvait au salon quand il y fit son entrée tardive. « Oh, les jeunes gens d'aujourd'hui !» s'écria la famélique invitée. « Quelle patience il faut avoir avec eux !» Le marquis, tout rêveur et cependant fiévreux, n'entendit pas l'interjection aigre-douce. Il n'entendit pas non plus la réponse que fit sa mère avec un singulier regard. « Oui, beaucoup de patience. Beaucoup de patience, en vérité. » Ce soir-là, Madame de Fonlus ne quitta guère son fils des yeux. Ce que signifiaient ses regards inquisiteurs, Florimond, le maître d'hôtel, l'exprima d'un mot qu'il dit à l'oreille de la très redoutée Joséphine en se mettant à table à côté d'elle. Ça sent la poudre au salon. « Oh !» répondit entre ses dents l'altière confidente, « la poudre d'escampette seulement. » Car elle ne dédaignait pas de faire un mot d'esprit à ses heures.